Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider ?
Garage digital. Communication numérique. Réactivité.
Garantie Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPV des Demandes en partenariat avec 48 FM, la mission locale et le programme La Fabrique de Territoire.
Bonjour à tous, il est 12h30 et vous êtes en direct sur 48 FM dans les locaux de Pollen. La prochaine heure est consacrée à l'émission 48 Digital. Et oui, l'espace rural peut rimer avec digital. Cette nouvelle émission est en collaboration avec les étudiants de la licence professionnelle CNEA Demande, dont je fais partie. Je suis Lisa, votre animatrice pour cette émission. Nous sommes une poignée d'étudiants, présents pour échanger et faire partager notre passion du digital. On nous présente souvent comme les moutons à cinq pattes.
Moutons, losers, ça passe.
Non. Entre communication, réseaux sociaux, sites internet, lignes de code à n'en plus finir, c'est toute la richesse du numérique. Il est présent partout. Et il existe une multitude de métiers et de projets innovants. Je pense que Vincent Gatin, directeur de Lozère Développement, qui est près de moi aujourd'hui, peut me donner raison sur cette affirmation. Nous aurons la chance également d'avoir dans cette émission, en deuxième partie, Alban Tiberghien, de l'entreprise Numencop, qui a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture sur le thème du musée numérique. Puis, Perrine Poirier, artiste peintre qui vend ses toiles sur la toile. J'ai également le soutien de trois de mes collègues étudiants, Marie, Nolwenn et Antoine, qui vont nous présenter leur chronique. Et oui, c'est notre première émission, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Le thème du jour est les NFT. C'est un acronyme anglais pour, accrochez-vous pour mon anglais, Non-Fungible Token, soit non-fongible jeton. C'est un subtil mélange d'œuvres numériques et de monnaie du web qui peut rapporter des millions. Je vais donner la parole à l'un de nos invités. Vincent Gatin, pouvez-vous expliquer les missions de Lozère Développement ?
Alors Lozère Développement, en fait, on est une agence de développement territorial en Lozère. On a trois métiers, en fait. On essaye d'attirer des talents sur le territoire, d'essayer d'installer des entreprises, de développer la Lozère de ce côté-là. Après, on a une partie aussi sur l'agroalimentaire. On essaie de défendre la bonne bouffe, de la nourriture locale, les circuits courts, à travers une marque qui s'appelle De Lozère. Et puis après, on a tout un axe autour du numérique, où je travaille avec Paul Clavel. Donc on travaille sur deux aspects. On travaille un peu sur la sensibilisation au numérique au sens général du terme, et puis sur l'inclusion numérique avec une approche un peu plus auprès du public pour qu'ils puissent s'approprier le numérique. Et voilà, donc c'est un peu les métiers qu'on fait ici à Pollen, dans le bâtiment où nous vous accueillons aujourd'hui.
Merci d'ailleurs pour cet accueil. Qu'est-ce que les NFT ?
Alors les NFT, c'est super compliqué, mais on avait envie de faire une émission là-dessus parce que c'est des termes dont on entend régulièrement parler. Donc on dit, c'est des jetons non fongibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand on a un élément qui est sur Internet, on a la logique du copier-coller. C'est-à-dire que si on prend, une photo de ce plat, la photo, on peut la copier-coller et puis on peut la diffuser en plein de formats, dans plein de fichiers différents. Et puis ces fichiers, on peut les échanger. Et on va dire que c'est fongible, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un fichier par l'autre. L'idée d'avoir des jetons non fongibles, c'est de dire qu'on a un support numérique et on va lui donner une identité propre. C'est-à-dire qu'on va caler sur un objet numérique un code qui est en théorie incraquable, donc on peut pas le modifier, et on va lui dire ça c'est la pièce unique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des contenus multimédia qui se dupliquent sans qu'on puisse tracer quelque part l'original, là on donne une originalité à un élément numérique. Donc c'est ça en fait la logique du jeton. Et il y a un truc qui est assez compliqué par rapport à ces jetons non fongibles, c'est qu'ils sont liés à un élément qui s'appelle des blockchains. C'est-à-dire qu'en gros, le jeton non fongible, c'est un contrat entre une pièce et un réseau d'ordinateurs qui va crypter et qui va être garant du code. Et donc on a notre pièce numérique, le code, le contrat entre les deux, et ça permet de garantir l'unicité d'une œuvre. Et ça va nous permettre, à partir du moment où on a un élément qui est quantifiable et qui est rare, ça va permettre de lui donner de la valeur. Et on va le voir après dans l'émission, ça va permettre en fait de quelque part aux artistes de signer leurs œuvres sur le web. et ce qui n'est pas évident et ce qui peut apporter des points positifs, des points négatifs. Voilà.
D'accord. Et du coup, dans cette création, comment est créé, enfin, il existe des sites bien spécifiques pour créer des NFT ?
Alors, ouais, pour créer des NFT, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est, le mot, il fait peur, mais globalement, déjà, il faut avoir de l'argent sous forme de blockchain. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui existent. On connaît, je sais pas, le Bitcoin, on connaît l'Ethereum, qui sont deux réseaux. On va rester sur ceux-là, on va simplifier les choses. Donc, on va dire, voilà, l'Ethereum, c'est un réseau de blockchain, c'est-à-dire que c'est un réseau de code. On a tout un réseau d'ordinateurs qui vont partager des jetons, qui vont partager de l'argent en réseau et qui vont signer cet argent. Donc ça, c'est le jeton. Donc, on va sur une plateforme. Il y a des plateformes, c'est par exemple Capital, enfin voilà, sur Internet. Et on va mettre, mettons, 1000 euros sur cette plateforme. Avec cette plateforme-là, ensuite, on va acheter ce qu'on veut. On va dire, bah voilà, je vais, comme un trader, je vais acheter du Bitcoin, je vais acheter de l'Ethereum, je vais acheter ce que je veux comme monnaie. Là, j'ai un portefeuille avec de l'argent. Mm-hmm. Bon, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est je vais sur une plateforme de NFT, et notamment il y en a une qui est connue qui s'appelle OpenSea. J'arrive sur cette plateforme-là et je vais, pour créer mon NFT, il me faut deux choses. Il me faut une œuvre. Donc déjà, ça, c'est le boulot le plus important. Donc voilà, on va créer une œuvre d'art, on va créer une musique, on va créer une image. Donc ça, c'est l'image en elle-même. Et puis cette image, on va lui assigner en fait une unité de blockchain en question. C'est-à-dire qu'on va dire, cette image-là, je l'envoie sur Ethereum ou je l'envoie sur Bitcoin. En général, c'est sur Ethereum que se font les plupart des NFT. Donc voilà, on va mettre un lien en fait entre mon porte-monnaie d'actifs et cette pièce-là. Et ça se fait en deux clics. C'est-à-dire qu'en gros, je télécharge une image et je la lie à Ethereum.
D'accord.
Après, je vais la mettre aux enchères et c'est ça qui va délimiter sa valeur. Mais globalement, en fait, c'est juste une question, c'est comme mettre une annonce sur le bon coin. C'est-à-dire que les mots sont très effrayant, mais dans les faits, c'est une plateforme, je mets un petit peu d'argent, ça me fait un portefeuille numérique, mm-hmm. Je mets une œuvre, j'associe les deux et on va laisser peser, j'ai mon NFT.
Voilà. Ok, d'accord. Ça paraît très simple dit comme ça, mais je pense que dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce que vous avez déjà acheté des NFT à titre personnel ou professionnel ?
Alors franchement, on entend parler beaucoup d'NFT.
Oui.
L'idée, c'est pas de faire la promotion des NFT. Ce que je veux, je souhaite pas vous dire acheter des NFT. Mm-hmm. Je pense que c'est une bêtise en ce moment, pour plusieurs raisons. En fait, on est sur quelque chose qui est tout naissant. Donc, c'est-à-dire que c'est une forme de contrat, en fait, le NFT. Le NFT, ça veut pas dire que l'art, il est de bonne qualité. Ça veut pas dire que la pièce, elle va prendre de la valeur. C'est juste une forme de contrat. C'est un contrat numérique entre une œuvre et un artiste. Acheter un NFT, ce serait intéressant si vous aimez l'œuvre. Mais acheter un NFT pour acheter un NFT, ça sert à rien. Ensuite, on est sur une période où ça arrête pas d'être fluctuant. Il y a une perte de confiance. Il y a des problèmes sur les marchés. Donc, c'est faire du trading, en fait. Il faut faire super gaffe et il faut être totalement éclairé pour le faire. Et même si on est éclairé, en fait, on produit pas grand chose aujourd'hui quand on achète des NFT. Parce que les œuvres, il y en a assez peu, c'est très élitiste, elles sont très chères et on est au démarrage. Moi, ce qui m'intéresse dans la démarche NFT, c'est plus la logique qu'il y a derrière de dire que demain, des artistes lausériens pourraient signer des œuvres et les commercialiser. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça sur les plateformes NFT. En gros, c'est des éléments de la pop culture, c'est des gifs, c'est des choses comme ça. Et on est sur de la spéculation. Donc aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas acheter de NFT. En tout cas, pour le public ici, je ne pense pas que ce soit pertinent. Sauf si on a envie de faire de la spéculation. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Et il n'y a pas encore, je trouve, un portefeuille d'art suffisant pour se dire c'est là où je vais trouver des œuvres que je ne trouve pas ailleurs. Mais okay. Dans le futur, pourquoi pas.
D'accord, très bien. Monsieur Gatin, oui. Pensez-vous avoir conservé votre âme d'enfant ?
L'âme d'enfant, honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui.
Oui ?
Ouais.
Très bien, nous allons écouter du coup la chronique d'Antoine.
En effet, donc pour toutes les personnes qui auraient gardé leur âme d'enfant, donc je vais vous parler d'un sujet qui va fortement vous intéresser. Donc, souvenez-vous, vous conserviez et collectionnez, échangez des cartes comme des cartes Pokémon, des cartes Panini dans les cours de récréation. Eh bien, sachez que pour la Coupe du Monde 2022 de football, la FIFA va sortir des NFT. Donc, en vue des Coupes du Monde masculine et féminine de football, la FIFA présentera sa future plateforme de NFT. Donc, cela permettra donc aux fans du monde entier de conserver des NFT de joueurs de moments sous la forme de souvenirs numériques. En parlant de la Coupe du Monde de football qui a lieu au Qatar, j'aimerais rebondir sur le désastre écologique que cela va engendrer. Pour ce pays où tout est démesure, la Coupe du Monde c'était un moyen parfait pour montrer sa puissance économique en dépensant environ 20 fois plus que la précédente édition.
À votre avis, Vincent Gattin, quel est le coût de la Coupe du Monde du Qatar?
Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, 10 milliards. Enfin, non, même pas plus. Je sais pas.
10 milliards?
Non, peut-être 50. C'est dur de...
50?
J'en ai aucune idée.
Vous pouvez également jouer en direct en répondant sur le chat pour donner le chiffre.
Et donc, la réponse était plus de 220 milliards d'euros, de dollars... ont été dépensés, et encore toutes les infrastructures n'ont pas été totalement finies. Donc avec forcément un budget aussi énorme, rien n'est impossible. Donc avec la construction de nouveaux stades, d'aéroports, d'hôtels, des routes, des moyens de communication et de transport en commun. Donc pourquoi parle-t-on d'un désastre écologique? Eh bien, le Qatar, c'est la région la plus chaude du monde, y compris en hiver, où lors des matchs, il fera environ 27 degrés. Donc, petite anecdote, c'est la première fois que la Coupe du Monde se jouera en hiver. Et pour remédier à cette chaleur, tous les stades seront équipés d'une climatisation tout au long de la compétition. C'est une triste opposition avec les mesures mondiales qui visent à réduire son empreinte carbone afin de limiter le réchauffement climatique et de préserver l'environnement. Donc pour revenir au sujet principal, donc les NFT, elles nuisent également à l'environnement. L'achat des NFT se fait par crypto-monnaie, donc tel que le Bitcoin ou l'Ethereum, comme dit précédemment. Et ces crypto-monnaies sont très énergivores. Et par exemple, à titre comparatif, le Bitcoin consomme annuellement l'équivalent, tenez-vous bien, de la consommation de la Norvège. Donc à cela s'ajoute la consommation des serveurs où sont stockés les différentes NFT. Et pour terminer, de parvenir à continuer d'utiliser des NFT en gardant une démarche écologique.
Alors... je trouve ça super intéressant de voir les préoccupations que vous avez, et je pense qu'elles sont elles sont hyper importantes. Là où il faut faire attention, c'est comment dire, c'est les crypto-monnaies, c'est le véhicule. Le NFT, c'est un des usages. C'est comme si on disait la lampe à pétrole, donc elle fonctionne de pétrole, le pétrole pollue, du coup l'utilisation des lampes à pétrole pollue énormément. C'est-à-dire que c'est une partie de la crypto-monnaie, c'est qu'une partie. Donc c'est pas, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les NFT, ça va pas générer autant de pollution, enfin autant d'énergie que la Norvège. Ça reste quand même une partie plus petite. Après, ça n'empêche que le fonctionnement même de la du NFT, il est forcément énergivore, parce que en fait, ce qui donnait la valeur dans le monde traditionnel, c'est de dire qu'on a une autorité qui régule. Donc on se dit, voilà, on a une valeur, on a une autorité qui donne un prix, et ça, c'est l'autorité qui régule. Là, dans l'histoire de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on va partager des actifs entre des milliers d'ordinateurs, et c'est ces milliers d'ordinateurs qui vont enregistrer les transactions. Et donc c'est ces milliers d'ordinateurs qui vont dire, oui, effectivement, la pièce qui a été authentifiée, elle a tel ou tel endroit. Et donc, structurellement, pour qu'un NFT fonctionne, c'est-à-dire que pour qu'on puisse garantir l'origine de cette pièce-là, il doit forcément être déployé sur pas mal de serveurs. Donc ça veut dire que structurellement, le NFT, il va polluer, pas autant que ce que vous avez dit, mais il va polluer. Et ça, on ne pourra pas le corriger. C'est-à-dire que si on a une augmentation des NFT, on va forcément avoir une augmentation de la pollution. Là où peut y avoir un intérêt, c'est quand on fait des cartes Panini, je pense que c'est une catastrophe. Parce que si on fait des cartes de ce type-là, elles ont valeur à être échangées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va échanger un bien NFT, on va générer en fait de la suite de données dans des bases de données, et on va appeler, on va complexifier la blockchain. Et au bout d'un moment, bah, du coup, on va être très énergivore. Donc c'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même réguler l'usage pour pas mélanger en fait entre des pièces artistiques uniques qui ont vocation à être échangées 3-4 fois, et je vais dire des merdouilles type carte magique ou autre, mais qui par nature vont être échangées 100, 200, 300 fois. Et donc là, on va avoir des petits objets qui ont peu de valeur, qui vont avoir un coût énergétique extrêmement important, alors qu'on peut avoir des œuvres un peu plus costauds, qui vont être échangés peu de fois. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réguler l'autorisation d'échange. On va avoir une vraie problématique, c'est que quand on est sur des NFT, en fait, on part en dehors de tout contrôle. On est en dehors en ce moment de tout cadre légal. C'est-à-dire qu'on va donner de la valeur à un objet sur Internet, et la valeur de l'objet, elle va reposer sur la confiance entre pairs, entre les gens qui sont justement sur la blockchain. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même réussir à réguler ça pour pas que ça parte en vrille. Et après, ce que j'espère vraiment, hein, c'est que si on arrive à signer des œuvres et qu'on a des artistes qui arrivent à mieux vivre de leur art, les artistes, ils ont beaucoup de choses à nous dire sur demain. Ils ont beaucoup de choses à nous dire sur le monde de demain et dans l'anticipation, dans les valeurs qu'ils vont développer à travers leurs œuvres d'art. Et si à travers cet objet-là, on arrive à promouvoir l'art et réussir à justement sortir des arts qui sont moins mainstream parce qu'ils arrivent à trouver de la valeur en dehors des réseaux de distribution, là, le NFT aura un intérêt. Mais bon, c'est un peu comme une pelleteuse électrique. C'est bien d'avoir d'électrique sur la pelleteuse, mais si ça écrase des arbres, c'est pas. Voilà, en gros, c'est qu'un moyen. C'est ce qu'on a envie d'en faire qui fera que ce sera vert ou pas.
Merci beaucoup.
Pour répondre à l'urgence climatique, est-ce que des solutions existent que la technologie des NFT réussisse à passer au vert?
Alors, en ce moment, la plupart des NFT sont sur l'Ethereum. Et le problème, c'est que l'Ethereum, c'est une blockchain qui est très gourmande, qui va avoir plusieurs niveaux de validation, et on est sur une blockchain qui est très très lourde. Il y a des moyens pour que ce soit un peu moins gourmand, c'est-à-dire que au lieu que tous les postes qui sont sur l'ensemble du réseau et la signature, on pourrait dire qu'on fait par tranche, par exemple. Et donc, on a certaines blockchains qui sont pas sur le même système algorithmique et qui vont moins consommer par nature. C'est un petit peu comme sur les sites internet. On a des sites qui sont très gourmands parce qu'ils vont à chaque fois calculer des applicatifs. Et des fois, on a des sites qui sont un peu plus légers parce qu'ils vont pré-calculer les applicatifs et envoyer directement les résultats sur des requêtes récurrentes. Mais comme on est au début de cette techno-là, pour l'instant, c'est pas bon, mais il y a forcément des axes pour que ce soit plus vert.
Quand vous dites on est au début, à partir de quand a été créé les NFT finalement?
Bah c'est tout récent, ça a même pas 10 ans. La logique de NFT au départ, c'était même pas sur l'art, c'était lié au Bitcoin, et donc on avait des color coins. L'idée, c'était de dire j'ai mon actif numérique, donc j'ai mon Bitcoin, donc qui est peu palpable, et ben du coup je vais lui associer un objet, par exemple un quart d'un appartement. Mmh. Et du coup, je vais éditer un certificat qui va être associé à la blockchain. Ça, par exemple, ça peut nous paraître un peu débile parce qu'on a des notaires en France. Mais sur des pays où on a un État qui est en difficulté, par exemple, quand il y a eu la guerre en Libye, faire des transactions immobilières en Libye, c'était pas possible sur le système libyen. Donc là, il pouvait y avoir intérêt d'avoir des autorités comme ça décentralisées qui vont valider en fait qui vont agir à la place d'un tiers de confiance. Et donc ça va être intéressant à la fois quand on est une absence de tiers de confiance et aussi quand on est dans une industrie ou dans un échange mondialisé où on doit passer des frontières et changer en fait de système de régulation. Donc là, au départ c'était ça, et donc on avait testé Bitcoin avait essayé d'associer un objet à la blockchain, et c'est comme ça que ça a démarré en 2013. Après, on a monté le concept de l'NFT, mais ce type de contrat, c'est une Rolls, on peut faire des tas de choses avec. Mmh. Pour l'instant, on n'en fait encore que des petites choses. D'accord. Mais un jour, on arrivera sûrement à faire des belles choses.
D'accord. Donc, dans tout ce que vous avez présenté, donc il y a le caractère récent, finalement, des NFT. Un manque d'organisation. Pour le moment, c'est une organisation assez sauvage avec cette idée de crypto-monnaie et cette volonté plus personnelle, entre guillemets, de mettre plus en lumière les artistes avant même cette idée de monnaie. C'est bien ça?
Oui, je pense que c'est un vecteur qui peut être intéressant parce que bah, du coup, ça peut donner de la rareté sur quelque chose qui est pléthorique. Donc ça, c'est vachement important. Après, il y a juste un mot que vous avez dit, c'est sauvage. Au contraire, c'est hyper bien organisé. D'accord. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mots comme crypto-monnaie, mais les réseaux, c'est comme les réseaux de peer-to-peer, les réseaux qui ont commencé à distribuer. En fait, on est sur des structures qui ne sont pas forcément institutionnelles, mais elles ont généré des organisations qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement rodées et qu'on n'arrive pas à faire d'un point de vue institutionnel. Du coup, oui, c'est pas régulé, mais c'est pas le bordel, loin de là.
Ok. Peut-on se faire voler des NFT?
Alors oui, on peut se faire voler des NFT, mais en fait il faut se faire voler l'acte de propriété. C'est-à-dire que en théorie on va pas pouvoir dupliquer, c'est-à-dire que l'œuvre en elle-même elle va être signée numériquement et le code il est incraquable. Parce qu'en fait si on essaie d'apporter une copie, vu que tout le réseau a les traces du premier, on va interroger le réseau et va dire bah non, il arrive pas de là. Donc on va réussir comme ça à bloquer le truc. On peut pas le copier. Par contre, si vous avez un portefeuille et que vous mettez un code 1, 2, 3, 4, comme il y a beaucoup sur les comptes en banque ou ces éléments-là, bah du coup, quelqu'un peut prendre votre portefeuille et se l'approprier. Si vous avez stocké le code sur une clé USB que vous faites voler, vous pouvez vous faire voler l'œuvre d'art. Après, c'est comme une œuvre de musée, elle vous appartient, elle va être non duplicable, mais par contre, vous pouvez vous la faire voler si c'est vous la faille, dans ce cas-là. D'accord. C'est pas l'œuvre en elle-même.
D'accord. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Vincent Gattin pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore Antoine pour ta super chronique. Nous allons faire une courte pause musicale et nous nous retrouvons ensuite pour la suite de l'émission 48 Digital. De retour en direct sur l'émission 48 FM. Nous avons cette fois-ci Alban Tiberghien de l'association Numencop et Nolwenn pour cette partie d'émission. Alban, pouvez-vous nous présenter rapidement votre association ?
Alors, Numencop, c'est une association qui a été fondée en 2017, qui a pour vocation en fait à apporter le numérique au plus grand nombre. Et la mission initiale était sur les territoires ruraux. En fin de compte, la Lozère, ça suffit largement en termes de mission. Donc en fait, on est une association de médiation numérique qui promeut, qui favorise l'inclusion numérique de tout type de public, allant des plus jeunes, 5 ans, jusqu'aux seniors, sans limite d'âge a priori. La médiation numérique, c'est quoi? C'est d'apporter les usages, que ça soit le clic gauche ou le clic droit, pour les gens les plus éloignés du numérique, ou des ateliers un peu plus créatifs, comme par exemple autour de l'impression 3D, pour les plus jeunes publics.
D'accord. Et c'est l'association qui se déplace dans les lieux en Lozère ou c'est eux qui viennent directement au sein de vos locaux ?
L'association est par essence itinérante et évolue partout en Lozère pour aller atteindre les publics les plus reculés, les plus enclavés dans les plus petits villages, hameaux qu'on peut avoir sur le territoire.
D'accord. Et actuellement, elle est composée de combien de membres ?
Alors, des membres, on ne va pas appeler ça des membres, puisque on pourrait dire 77 000, d'accord, le nombre d'habitants dans le département. Donc, on n'a pas vraiment de membres, c'est deux dirigeants, deux salariés.
D'accord, très bien. Vous avez des bénévoles en plus aussi au sein de l'association ?
Pas de bénévoles.
Ok, très bien.
Petite structure.
Hors Microfolie, dont on va parler après, comment se déroule un atelier numérique proposé par Numencop ?
Nous, nos ateliers en fait sont basés sur ce qu'on appelle la pédagogie active, donc forte participation des participants, que ce soit des jeunes ou les moins jeunes. On travaille aussi souvent sur le binôme, sur le travail par deux, pour l'échange de pratiques entre participants, et surtout sur le faire, où il n'y aura jamais de grandes explications longues, de cours magistraux, mais réellement de la pratique le plus rapidement possible. Et quelles que soient les thématiques, hein, qu'on parle d'un traitement de texte ou qu'on parle de robots pédagogiques, on aura tout de suite les mains dans le cambouis.
D'accord. Du coup, vous intervenez essentiellement auprès d'un public qui est plutôt éloigné du numérique. Au niveau du matériel, vous possédez-vous le matériel ou ce sont aussi d'autres collaborateurs qui viennent vous apporter du matériel ou les personnes ont du matériel? Comment ça se passe?
Alors, par rapport au type de public, oui. Initialement, on est sur des publics, et encore une fois, quel que soit leur âge, éloignés de la question du numérique, des usages et des outils. Et là, progressivement, on essaye de rentrer dans une dynamique de perfectionnement où des gens qu'on a déjà croisés ou qui ont montré un intérêt particulier sur une thématique, on essaye de les revoir pour travailler dans la durée, ce qui nous rapproche en fait d'un parcours pédagogique qu'on essaye de dérouler sur le temps. Après, sur ce qui est du matériel, c'est notre matériel pour être 100% autonome. Ce qu'on demande en général, la seule chose qu'on demande quand on se déplace, c'est une connexion Internet.
D'accord, très bien. Vous avez parlé d'imprimante 3D. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la fonction de l'imprimante 3D? Comment vous animez ces ateliers autour de ça?
L'imprimante 3D, bon, maintenant c'est plus nouveau, hein. Ça fait une dizaine, quinzaine d'années que l'imprimante 3D est devenue un outil grand public. On se gratte toujours un petit peu la tête pour savoir à quoi ça peut servir, à part à imprimer des Yoda pour mettre sur le rebord de la cheminée. Nous, on s'en sert essentiellement comme pour agrémenter en fait les autres objets qu'on va utiliser. Je pense par exemple à un atelier de robots. Mmh. Donc l'objet, c'est le robot, la robotique pédagogique, la programmation de ce robot. Mais pour aborder l'impression 3D, on va imaginer de lui rajouter des carénages, des outils autour de ce robot, ce qui va en général parler à nos plus jeunes participants plutôt que de partir sur de la conception d'objets 3D qui peut être relativement compliqué.
Oui. Du coup, les supports pédagogiques sont toujours adaptés au public forcément, oui, en face. Oui. C'est vraiment presque des cours particuliers que vous venez apporter.
Oui, et qu'on essaye de renouveler en fonction des publics et des technologies qu'on a envie aussi, nous, de manipuler.
Ok, super. Est-ce que les territoires ruraux ont plus besoin de projets numériques culturels que les zones urbaines ?
plus, c'est pas une histoire. En fait, non, c'est pas une histoire de quantité. C'est une histoire de nature. Je pense que la ville, naturellement, sur ce qui est du numérique culturel de surcroît, va brasser beaucoup plus d'artistes, d'intervenants, de techniciens. Et du coup, on va être sur une proposition beaucoup plus riche d'installations numériques, d'œuvres numériques, d'expositions numériques culturelles. Nous, on n'en est pas là. On est plutôt sur accéder à tout ça. Donc le numérique ne va pas être va être un outil pour accéder à cette culture à distance, en fin de compte.
D'accord. Être médiateur ou animateur numérique culturel, en quoi cela consiste ?
Bon, je pense que le métier de médiateur, qu'il soit numérique, qu'il soit culturel, qu'il soit numérique culturel ou autre, c'est un passeur de savoir, c'est un enseignant. La différence avec le monde de l'enseignant, c'est que on va peut-être changer de public plus souvent et du coup réinventer systématiquement d'un atelier à un autre, d'une journée à une autre, notre technique de transfert de connaissances. Mm-hmm. On va passer de public vraiment très compliqué en termes d'appropriation de nouvelles connaissances. Je pense aux personnes âgées, non pas qu'ils soient plus bêtes que d'autres, c'est juste qu'ils sont peut-être plus réfractaires ou moins sensibles à ces questions-là du numérique. On est des vulgarisateurs, quoi. On est les Fred et Jamy, c'est eux nos modèles.
Oui, la médiation. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans cette promotion du numérique ?
Par rapport au territoire, du coup, par rapport à la ruralité ?
Par rapport à la ruralité, oui.
Aucune. Il n'y a pas plus de difficultés ici qu'en ville. On n'a pas les mêmes publics. Nous, on sera sur des publics éloignés, peut-être par rapport à la culture historique de nos territoires, une culture plus de fait agricole. Si on pense, par exemple, aux limitations technologiques, c'est plus vrai. Internet, la fibre, une connexion, on l'a dans 90-95% du territoire. Il y a encore en effet quelques zones blanches, mais on arrive quand même à faire des choses. On peut même faire du numérique déconnecté, on peut même faire du numérique sans ordinateur. Non, il n'y a pas réellement de frein, à part peut-être chez certains publics, et notamment nos anciens, ce côté réfractaire. On est souvent confronté à « mais pourquoi je devrais faire ça ? Pourquoi je devrais utiliser ça maintenant ? J'ai toujours fait sans, certes. » Sauf que on vit à une certaine époque et c'est bien aussi de s'y raccrocher pour pas être complètement largué. En tout cas, ça, c'est notre discours, quoi.
Du coup, pour ce type de public, c'est plus par rapport aux démarches administratives où vous venez apporter une aide ? C'est par rapport à ce à quoi on est confronté à l'heure d'aujourd'hui, ouais, où tout se numérise ?
En général, déjà, sur ce type d'atelier, on est financé par les caisses de retraite qui sont sensibles à cette problématique de l'éloignement du numérique. Donc, on va accompagner ces personnes-là sur le clic gauche, le clic droit, savoir déclarer ses impôts en ligne, etc. D'autres qui ont réussi à prendre le virage du numérique vont nous solliciter sur comment traiter leurs photos après avoir fait une randonnée, comment je les stocke, comment je les partage avec mes petits-enfants qui sont à l'autre bout de la planète. Okay. Donc, il y a un peu de tout aussi, mais c'est vrai que la majorité, c'est clé gauche, clé droit, et arrêter en fait d'avoir peur de cette machine, arrêter d'avoir peur de la casser, parce que ça se casse pas si facilement que ça, en fin de compte. Et puis ça se remplace, donc il n'y a pas raison d'avoir peur.
Ok, super. Avant qu'Alban présente le projet Microfolie, je vais donner la parole à Nolwenn, qui va nous présenter sa chronique.
Alors, ce qui m'intéresse dans le sujet microfolie, c'est surtout le terme folie.
Parce que tu viens de Saint-Alban ?
Tu crois pas si bien dire. Parce que je veux vous parler de l'art brut qui est né en partie ici, en Lozère. Pour faire très bref, l'art brut est né dans les années 50, à Saint-Alban-sur-Limagnole, à l'hôpital psychiatrique Tosqueles. Ce mouvement artistique comprend toutes les œuvres créées par les personnes dites marginales ou ayant des troubles psychiatriques. D'où le fait qu'il ait été découvert dans un hôpital psychiatrique. Mais le plus important surtout, c'est que c'est le premier mouvement artistique créé par des autodidactes et qui ne correspond à aucun style ou aucun mouvement existant à l'époque. Pour la première fois, n'importe qui peut être considéré comme artiste et n'importe quelle création peut être perçue comme une œuvre.
Alors, du coup, c'est quoi le rapport entre art brut, numérique, NFT ?
C'est très simple en fait. L'art brut est le prémisse de plusieurs mouvements artistiques, comme l'art numérique. Parce que oui, on connaît le numérique comme outil de diffusion, mais c'est aussi et surtout un outil de création qui révolutionne le monde de l'art. D'ailleurs, ce mouvement lancé dans le milieu des années 2000 a permis l'avancée de dispositifs indispensables aujourd'hui tels que le cinéma ou encore la photographie. Depuis la création des premiers ordinateurs, les outils de création n'ont cessé de se développer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut tout créer. Que ce soit de la musique avec des logiciels de mixage, des vidéos avec des outils de montage ou encore des sculptures grâce aux imprimantes 3D. Comme les possibilités de création sont quasi infinies, il existe autant de styles que d'artistes. Chacun crée avec ses goûts et son ressenti, tout comme dans l'art brut. De plus, n'importe qui peut concevoir une œuvre numérique ou un outil de création. Il suffit juste d'avoir un petit peu de créativité et savoir utiliser un minimum les logiciels. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise du tout avec ces logiciels, pas de panique. L'avantage avec le digital et Internet, c'est qu'on peut trouver plein de tutos. D'ailleurs, comme dans l'art brut, la plupart des artistes révélés par le numérique sont des autodidactes. Et qui sait, peut-être qu'eux aussi, ils ont eu besoin de tutos pour réussir. Et avec les nouvelles technologies, des nouveaux styles apparaissent, comme la peinture digitale, le net art ou encore l'art interactif. À chaque nouveauté, de nouvelles tendances se créent. La dernière en date, les NFT. Comme nous l'a expliqué très bien Monsieur Gatin, non seulement les NFT peuvent être créés, vendus et achetés par n'importe qui, mais surtout elles représentent une révolution dans l'art numérique, celle de donner de la valeur aux œuvres, ainsi qu'une reconnaissance des droits moraux et patrimoniaux aux créateurs. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que l'art vit avec son temps. Et personnellement, j'ai hâte de découvrir les nouvelles tendances.
Merci beaucoup, Nolwenn, pour ta chronique, c'est super. Alban, je vais repasser à vous de nouveau par rapport au projet Microfolie. Comment votre association a récupéré ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement sur les grandes lignes ? Ensuite, on ira un peu plus sur des questions plus profondes.
Comment Microfolie est venue à nous ? C'est qu'on a pensé à nous, en fait. C'est une discussion qui a eu lieu un jour entre donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et un de nos partenaires historiques de l'association, qui est la médiathèque départementale de la Lozère, où ils ont forcément des discussions assez régulières ensemble. Et puis donc la DRAC voulait déployer ce projet en Lozère et la médiathèque départementale. Et je remercie d'ailleurs Marlène Tufféry, sa directrice, d'avoir pensé à nous comme opérateur, comme animateur de cette Microfolie lozérienne.
D'accord, très bien. Pouvez-vous nous définir un peu plus le projet Microfolie ?
Alors, le projet de Microfolie, c'est un projet qui vient de Paris, qui vient de la Villette, donc du musée de la Villette, qui un jour s'est dit ça serait bien que tout ce qu'on peut avoir en ville, et notamment à Paris, en termes de culture et d'accès à la culture, donc essentiellement les musées et leurs beaux lieux, soit plus facilement diffusable et accessible au plus grand nombre à travers notre territoire français, voire même européen, puisque le projet a pris un peu d'ampleur pour eux. Et donc est né le projet des Microfolies. Pourquoi Microfolies ? Parce que ça vient des folies de Paris et de ces maisons en fait, qui étaient un peu réparties dans toute la capitale. On fait avec, on n'aime pas, mais bon. Et donc ça se matérialise comment ? C'est un musée complètement virtuel, complètement numérisé, qui est accessible à travers des tablettes tactiles et des casques de réalité virtuelle, et qui permet d'accéder au fond culturel, artistique, patrimonial des 10 musées nationaux à travers la France, tout ça à distance. Et nous, notre choix, en plus d'être accessible à distance, notre choix à Numencop, c'est de l'avoir fait en itinérance, où en fait on se pose par cycle de 3 mois, on va essayer de faire ça comme ça, sur les différents bassins de ville lozériens. Donc jusqu'au bout, on reste itinérant.
Un exemple de musée, vous en avez 2-3 à nous présenter ?
Oui, on a les plus connus. On a le Louvre, on a Orsay, on a le musée des arts et métiers. Les plus classiques qu'on irait visiter si on allait à Paris, on y a accès à travers le musée numérique, et ça continue à grandir. Hein. Le fonds grandit régulièrement puisque ils sont passés sur un mode régional où la Villette et les différentes DRAC sont en train de numériser les fonds locaux.
D'accord.
Peut-être qu'un jour, on aura accès à notre musée du Gévaudan, alors qu'on sera paumé au plein milieu de la Bretagne, par exemple.
Ok.
C'est la dynamique et la logique qu'ils sont en train de mettre en place.
Du coup, ça va être vraiment un échange aussi entre les musées pour le rendre plus accessible au plus grand nombre de façon générale sur le territoire.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Depuis quand, du coup, avez-vous débuté ce projet ?
On est en plein démarrage.
D'accord.
On est en plein démarrage. Le montage du projet s'est passé un peu avant l'été de cette année. Mm-hmm. Là, on est en plein dans l'achat du matériel et on démarre. Alors, officiellement, les premières animations microfolies auront lieu à Marvejols, puisque c'est le premier bassin de vie où on s'installe.
D'accord.
Le 17 octobre. Mais on l'installe ce jeudi-ci. Pour être synchro avec l'ouverture de la saison culturelle de la communauté de communes du Gévaudan.
D'accord.
Donc elle sera visible pour le grand public ce vendredi 23.
Du coup, au niveau concept, donc vous vous déplacez avec le matériel sur place, vous avez une salle, vous avez...
On nous met à disposition une salle, mm-hmm. et on la transforme en musée numérique. Okay. Donc nous, on a tout le matériel technique et on va essayer au fur et à mesure de lui donner un petit côté aussi chaleureux pour que ça ne soit pas juste une salle avec des tablettes posées sur des pupitres. Mais c'est nous qui amenons le matériel et on transforme la pièce. On laisse tout sur place pendant tout le temps d'installation.
Ok, super. Où en Lozère on va pouvoir découvrir ce type de musée ? Donc, vous avez dit Marvejols en première intention. À la suite de ce programme, quelles villes sont susceptibles d'accueillir les musées numériques ?
Pour l'instant, donc Marvejols, c'est sûr, c'est la première collectivité qui a levé la main. Et après, donc là, on est en train de travailler avec Lacanourg, Florac, sans pour autant savoir quelle sera la prochaine des deux destinations. Ce sera une des deux, a priori.
D'accord.
Et ensuite, on sera sur Saint-Chély, Langogne. C'est les villes aussi qui ont l'air, villes, communautés de communes, qui ont l'air vraiment intéressées.
Okay.
Et là, on aura déjà fini la première année en fait de Microfolie. À voir si on a d'autres bassins de vie qui se sont manifestés ou si on retourne dans les mêmes, mais sur des centres un peu différents. Je pense par exemple, plutôt que d'aller à Marvejols pour la communauté de communes du Gévaudan, on ira peut-être à Bourg-sur-Cologne,
mm-hmm.
ou pour la communauté de communes de Saint-Chély, on ira sur Saint-Alban. Pour dire de toujours se rapprocher et éviter de trop centraliser les services.
Du coup, c'est la force aussi de votre association, c'est de pouvoir vous adapter n'importe où sur le territoire finalement.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. On va n'importe où.
Okay.
Partout où on peut rouler.
Très bien. Super, merci beaucoup Alban pour avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à
Nolwenn pour ta super chronique. Nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons pour la dernière partie de l'émission 48 Digital.
On s'est rencontrés par hasard sur les ruines d'un ancien état. Quand on tenait rien pour acquis, que les regards étaient secrets, soulevant la rue du repos, sous d'avoir voulu voir autre chose. Le bon gars réveillait les fantômes, le reste est conséquence et cause. On s'est rencontrés quelque part, on n'avait rien à faire de plus que se demander s'il est tard, que demain je reprends le bus. Tu m'es précieuse comme un car, t'es plus précise que le miroir. Toi tu vois sous ma peau, je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau, je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Mais qui vivra verra. J'ai l'œil dans la médaille. Ça m'empêche pas de ressentir tout ce que j'éprouve pour toi. Et vu l'écart entre nous au raccord, demandez-moi. J'ai du mal à me dire que mes plus belles phrases sont de toi. Mais qui vivra verra. J'ai l'âme à ton image. On s'est rencontrés par hasard entre le chaos des visages. Et vu l'écart entre nous et Dieu au 105ème étage. Ça sert à rien que je me cache car tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Tu vois sous ma peau.
Dieu au 105ème étage. Ça sert à rien que je me cache, car tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau.
De retour en direct sur 48FM et live, YouTube, Facebook, pour l'émission 48 Digital. Nous avons cette fois une artiste peintre, Perrine Poirier, et Marie pour sa chronique. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Vous êtes artiste peintre sur toile. On voit une de vos œuvres juste ici pour ceux qui nous suivent en live.
C'est ça.
C'est de la peinture vraiment palpable sur toile, loin du numérique.
C'est ça.
Est-ce que vous pratiquez du dessin numérique sur tablette graphique, par exemple ?
Alors, pas en ce moment. J'ai une tablette graphique, effectivement, que j'ai testée il y a à peu près un an. C'est très intéressant, mais c'est pas mon truc.
D'accord.
Donc, c'est vraiment... un outil à développer, car en fait c'est pratiquement infini. Hein. On peut revenir sur ce qu'on a fait, des textures différentes, etc. Donc c'est très intéressant. Après moi non, je suis plus à l'ancienne, crayon et papier.
Besoin de toucher la toile.
Mais
et...
oui, c'est ça exactement.
Et la matière, d'accord. Bon. Vous faites pas mal d'œuvres de portraits de femmes. Est-ce que vous faites aussi d'autres styles? De composition.
Alors, moi personnellement, je suis vraiment dans les portraits depuis quelques années. Mm-hmm. C'est vraiment un style que j'ai acquéri ces dernières années, que j'ai essayé de développer. C'est vraiment mon truc, j'adore faire des portraits. Chaque visage est différent, chaque expression est différente et c'est toujours un petit défi que j'aime relever en fait. Après, oui, je peux faire surtout sur commande, des commandes un peu particulières, des paysages notamment. Donc je suis assez ouverte là-dessus, mais voilà, je fais essentiellement des portraits.
D'accord. Au niveau de vos portraits, c'est à partir de photos qu'on vous envoie ou c'est des créations qui vous viennent et vous inventez en
non,
fait, le
visage ? Non, c'est toujours d'après photos. J'essaie de trouver des photos libres de droit déjà ou de demander l'autorisation de reproduction au photographe qui après demande ou pas une commission sur le prix de vente. Ça m'est déjà arrivé. Mais toujours d'après photos. Quand je vois la photo, je sais que je saurais faire le portrait en peinture. Je ressens vraiment toute l'émotion du visage et je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à peindre ce portrait et à faire dégager toute l'émotion dans le regard, etc. Donc voilà.
Vous le réussissez très bien.
Merci, c'est gentil.
Par rapport à tout ce qui est numérique, tablette graphique, création de ce type de dessin, est-ce que c'est des compétences que vous souhaiteriez développer plus tard ou vraiment vous êtes attaché à votre toile ?
Alors oui, je suis très attachée à la toile. Jamais j'abandonnerai mon carnet de croquis et mes toiles. Mais après, la peinture numérique, tout ce qui est autour du digital est très intéressant. C'est vraiment à creuser. Donc je pense qu'il faut que je prenne le temps de m'y attarder un peu, de travailler l'outil. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas très facilement. Donc comme on en a parlé un peu avant. Il existe effectivement des tutos sur internet où je peux apprendre rien que le logiciel parce que c'est pas évident. Donc oui vraiment c'est un outil très intéressant et je pense que oui ces prochaines années j'essaierai de m'y atteler et oui toujours en à côté. Donc oui.
Ok. Au niveau de vos créations, donc on a des toiles. Par contre, au niveau de vos ventes, vous utilisez bien le numérique à l'heure actuelle. Vous utilisez quoi comme canaux de vente ?
Alors, du coup, je suis sur les réseaux sociaux comme la plupart des artistes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. J'essaie d'utiliser un maximum de plateformes sur le net parce que à notre époque, c'est inenvisageable voilà, de se dire ben, on n'utilise pas tous ces outils. C'est très très important de montrer son travail sur Internet. C'est également un partage, hein, voilà, on montre ses œuvres. Après, ce qui est intéressant, c'est les galeries d'art en ligne aussi, qui voilà, il y en a énormément. Donc j'ai toutes mes toiles sont sur certaines galeries en ligne. Donc pareil, c'est un outil super intéressant. Donc là, faut faire un peu attention parce que bon, il y a certains frais de commission assez élevés. Donc, il faut vraiment bien se renseigner, mais c'est une vitrine vraiment très intéressante. Après, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on peut pas voir la toile en vrai, c'est que sur photo, donc c'est un peu pour un client potentiel. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que les couleurs sont vraiment celles de la photo? C'est un des inconvénients. Mais sinon, oui, je suis énormément sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube aussi, etc. Donc voilà.
D'accord. Et du coup, vous faites des tutos sur YouTube?
Alors en fait, je ne fais pas de tutos. Je me filme en train de faire mes peintures ou mes aquarelles. Donc du coup, je fais un peu de montage vidéo aussi à côté. Donc toujours le côté numérique. Donc voilà, c'est vraiment pour présenter mon travail. Mais pour le moment, pas de tuto. Peut-être un jour, oui.
Ok, très bien. Nous allons pouvoir écouter la chronique de Marie. Marie, quelle place prennent les NFT dans le monde de l'art?
Merci Lisa. C'est en effet la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Perrine, vous utilisez les réseaux sociaux et notamment Instagram pour promouvoir vos œuvres qui sont tangibles, qui existent dans la vraie vie. Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'artistes, à un tel point que nous pouvons désormais considérer Instagram comme l'une des plus grandes galeries d'art au monde. Cette comparaison est tout de même à nuancer, puisque ce réseau social sert davantage de moyen de communication et n'offre pas le contact physique que peut offrir une galerie d'art, comme vous l'expliquiez. Ce qui est paradoxal quand on sait que les galeries d'art en ligne ne cessent de se développer. Et ce qui se développe également, ce sont les galeries d'art dédiées aux NFT. En effet, les artistes victimes de la duplication que permet Internet se tournent de plus en plus vers la création d'œuvres numériques. Ces NFT leur offrent la possibilité de se protéger, de protéger leurs œuvres en les cryptant, en les rendant infalsifiables et accessibles seulement aux acheteurs. Les investisseurs ou collectionneurs obtiennent donc la garantie du caractère unique et authentique de leur objet virtuel. Et les artistes, quant à eux, touchent la commission qui leur revient. Le crypto-art est également l'opportunité pour les artistes les moins connus de se révéler, puisqu'il permet de toucher un nouveau public, plus jeune et plus tourné vers la technologie. Je vais vous donner l'exemple de Mike Winkelmann, connu sous le pseudonyme Beeple. Cet artiste n'avait jamais vendu une de ses œuvres imprimées à plus de $100. Et pourtant, en mars 2021, il a enregistré la transaction la plus importante sur le marché des NFT, avec une œuvre numérique qu'il a vendue $70 millions.
Comment pouvons-nous expliquer un tel montant?
Eh bien, à vrai dire, avant qu'il ne se lance dans le marché de l'art, Beeple était déjà une personnalité connue du monde du numérique. Lassé par son emploi de développeur de sites internet, il s'était lancé en 2007 le défi de produire une image numérique par jour. Et cette œuvre, dont j'éviterai de prononcer le nom, est en fait un collage de ses 100 000 premiers dessins dont la technicité évolue au fil des jours. Derrière toutes ces images, Beeple fait également passer des messages par l'utilisation de symboles de la culture populaire. Il vient soulever des questions sur notre société. Je pense donc que ce prix peut s'expliquer d'une part par la notoriété déjà existante de Beeple et d'une autre part par la profondeur de son œuvre. Mais évidemment, bien d'autres facteurs ont dû rentrer en compte. Face à l'ampleur de ce marché, de nombreux musées ont décidé d'investir dans les NFT. Pour donner un exemple, le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg a vendu des œuvres de Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh ou encore Claude Monet sous forme de NFT. Ces investissements constituent une preuve que les NFT sont en train de faire petit à petit leur place dans le monde de l'art. Mais bien que le marché de l'art commence à s'approprier les NFT, il est important de garder en tête qu'ils représentent seulement 9% du volume des ventes de NFT. Le reste est notamment lié aux images de collection, dont la série des Bored Ape, ces fameux singes pour lesquels même Eminem a craqué. Parmi les 91% restants, on retrouve également des tweets, dont le tout premier qui s'est vendu $3 millions en 2021 et qui n'en vaut plus qu'une vingtaine aujourd'hui. On peut donc dire que l'art est encore bien loin de prendre possession du monde des NFT, tout comme les NFT sont loin de prendre possession du monde de l'art.
Merci beaucoup Marie pour ta chronique, c'est super. Perrine, du coup, je repasse à vous. Au niveau, on a vu les galeries d'art, est-ce que vous avez des expositions, des événements à venir ?
Alors, pour le moment, pas d'exposition de prévu. Je pense que ça va repartir comme un peu tout au printemps, à la saison touristique. C'est vrai que c'est la période la plus intéressante pour les artistes, même s'il y a des expositions tout au long de l'année. Donc, je m'y pencherai, je pense, fin d'année, début d'année prochaine. Mmh. Après là non, en projet, il y a le mois d'octobre qui va arriver, donc avec Linktober. Donc c'est un événement que j'apprécie tout particulièrement. Ça va être ma troisième année que je le fais. Donc Linktober, c'est quoi ? C'est une liste de mots qu'on a sur les 31 jours du mois d'octobre. Et donc c'est un mot, un jour, un dessin. Donc la liste, on l'a un peu en avance. Elle sort tous les débuts septembre chaque année. Donc c'est un événement qui a été créé en 2008 par un illustrateur américain et qui a un engouement vraiment impressionnant. Donc ça devient international. Tous les artistes qui connaissent le concept participent à cette sorte de challenge, on va dire. Donc après, c'est pas une compétition, c'est vraiment se mettre au dessin, faire un dessin par jour. Moi je le fais pour moi, pour me prendre du plaisir. Après effectivement, on partage nos créations sur les réseaux sociaux, on s'entraide, c'est vraiment pas une compétition, on est vraiment voilà, entre artistes, à partager nos créations, donc c'est très intéressant. C'est un bon exercice aussi parce qu'un dessin par jour, c'est assez difficile, surtout qu'on a un thème imposé, on a un mot à respecter, donc après c'est large, hein, on n'est pas obligé de, voilà, de forcément respecter le mot imposé, mais c'est un exercice très intéressant et ça que je vois à chaque fois, je sens une petite évolution dans le dessin, dans les traits, etc. Et je me dis que... à y participer tous les ans, ça peut faire que du bien. Donc voilà, donc ça approche un grand pas et il va falloir s'y pencher.
Vous avez du coup déjà vu les mots, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà, on a déjà la liste.
C'est inspirant, c'est...
Cette année, c'est non. Cette année, ça va être dur, je pense. Mais bon, je vais tout faire pour faire au mieux et prendre du plaisir. C'est vraiment ça le principal. Donc pareil, je partagerai mes créations chaque jour sur les réseaux sociaux, sur mes pages.
L'échange entre artistes se fait essentiellement sur un support Instagram, du coup, c'est ça ?
Oui. Alors Instagram et Facebook, c'est vrai qu'essentiellement, on a les petits hashtags qui vont bien, et c'est vrai que voilà. Et puis souvent, on a les petits commentaires qui font toujours plaisir. Ah, c'est original ce que tu as fait, etc. On essaye aussi de se mettre des petits mots sympas, parce que c'est quand même un exercice un peu compliqué.
Donc finalement, ces supports-là vous permettent aussi d'échanger entre artistes.
Énormément.
Avoir vraiment cette communauté aussi d'artistes.
Oui, oui complètement. Ah oui, c'est primordial.
C'est notre fonction aussi des réseaux sociaux, c'est aussi de mettre en lien
tout à fait.
Au-delà de vendre comme vous faites.
C'est ça, oui, tout à fait. Alors ça reste du virtuel, ça reste des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont derrière leur écran, mais voilà, ces petits mots, ces petits échanges par message, ça fait énormément de bien et ça nous permet de nous pousser, de nous entraider, de nous encourager.
Oui, parce que vous êtes seule quand vous créez vos toiles aussi.
Et c'est ça, voilà, je suis devant ma feuille de papier et voilà, mon crayon c'est vraiment super de partager tout ça, de partager notre passion commune, c'est super important.
Génial. Et quel conseil vous donneriez à un artiste qui débute, qui n'ose pas encore se lancer ?
Il faut y aller. Il faut y aller et surtout, il faut pratiquer. Rien que de dessiner un tout petit peu tous les jours ou une fois par semaine, c'est super important. Il faut. Voilà. On s'achète un carnet de croquis, un crayon, une gomme. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est la base. Et après, On peut suivre des tutos sur Internet, on peut se rendre dans les expositions et rencontrer les artistes sur place. Que l'échange également physique est très important. On a beaucoup parlé de numérique, de virtuel, de réseaux sociaux, les galeries d'art en ligne, etc. Mais il faut également sortir un peu de chez soi et aller rencontrer les artistes dans leurs ateliers. On a des journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Il y a énormément d'expositions, même en Lozère. Voilà, on peut rencontrer des artistes. Donc c'est super intéressant de pouvoir échanger vraiment avec ces personnes. Donc oui, voilà. C'est aussi simple que ça.
Super. Pour les personnes qui nous écoutent, on peut vous retrouver le nom de votre compte.
Alors,
Instagram.
Alors, c'est perrine.p.artiste. Okay. Voilà, donc on tape ça sur Google et vous devriez trouver les pages.
Perrine.p.artiste.
Voilà,
c'est ça. Pour vous retrouver par rapport à Inktober.
Voilà,
du coup.
Inktober, c'est ça. Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Perrine, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci, Marie, pour ta super chronique. Merci à tous d'avoir été là également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour la prochaine émission, ça se tiendra le 18 octobre dans les mêmes conditions sur 48 FM en direct et en streaming. Hâte de vous retrouver.